On va s'intéresser ce matin au vélo moteur, au célèbre Boguet. Voilà, rien qu'en prononçant ce mot, on sent déjà l'huile, hein, on sent l'essence.
C'est vrai, et le vintage.
Les folles années de l'adolescence, retour dans les années 70, 80, 90, où chaque ado suisse rêvait de sa petite mobilette, de son Boguet. Oui, dans les rues des villages suisses, hein, vous vous souvenez peut-être du Boguet qui régnait en maître. Pas besoin de voiture pour impressionner la galerie. Un Boguet customisé, un casque pas toujours attaché et vous étiez le roi de la colline. Chaque week-end, c'était la parade des Boguets avec des petits gars et parfois des filles aussi qui roulaient en bande. Pétaradons fièrement dans les ruelles. Attention au passage des Boguets, on s'en souvient. Ça, c'est pour celles et ceux qui avaient la chance d'en avoir. Il y avait les autres.
Le Boguet, on pédalait un peu quand même.
Oui, c'était le principe du vélo moteur. Moi, j'étais plutôt dans le camp de ceux qui n'en avaient pas, qui auraient bien aimé en avoir un, tu sais, qu'auprès de la jambe féminine, c'était plutôt pas mal, tu vois, c'était plutôt bien perçu le Boguet.
Ouais. Ouais. Ah, tu vois, moi j'étais plus dans cette génération de rebelles, de scooters, tu vois.
Ah oui,
moi
déjà
j'avais le droit à rien
scooters,
de toute façon.
Oui.
J'étais une fille et tu sais, mes parents étaient un peu vieux jeu, les nanas.
Ah ouais.
Les nanas, elles n'avaient rien parce que t'étais une nana, t'avais pas le droit.
Il y avait les Boguets version tuning maison, hein, des rétroviseurs en alu, des autocollants un peu partout, un petit pot d'échappement bricolé qu'on maquillait à l'époque. Il fallait faire attention parce que la police veillait. C'était 100 francs la bûche à l'époque.
Oh
c'était énorme hein, pour l'époque si on se faisait pincer parce que le problème, c'est que le Boguet plafonnait à 30 km/h.
C'est pas beaucoup.
Donc on essayait de gratter quelques km/h supplémentaires. Mais le Boguet, c'était pas juste un moyen de transport. C'était un vrai rite de passage. À 14 ans, on se retrouvait à l'indépendance, finalement. Ouais. L'aventure, la liberté, les premiers road trips entre villages. Parce que oui, on n'allait pas très loin avec le Boguet. On faisait quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres autour de la maison, pas plus. Voilà, ces Boguets qui ont été remplacés peu à peu par les scooters,
les
les trottinettes électriques. Ouais, aujourd'hui, il y en a partout. Mais ça nous arrive d'en croiser de temps en temps. Bon, c'est rare, hein.
De temps en temps, ça m'arrive de croiser un Boguet comme ça. Et là, je me dis, alors celui-ci, il est vieux, hein, quand même.
Mais il a été bien entretenu.
Ouais,
certains disaient de leur Boguet que c'était leur ami, tu vois, c'était leur meilleur ami.
Et j'ai déjà croisé des jeunes, jeune en l'occurrence, sur un Boguet. Donc souvent, je me dis, est-ce que c'est le Boguet du papa ou le Boguet du grand-papa? C'est
rigolo,
hein, quand même.
Qui sait? Vos souvenirs de Boguet, bien partagez-les avec nous ce matin. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac, 079 918 3000.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. suffit de demander.
Il suffit de demander.
Tous à poil, on parle évidemment de nos animaux domestiques chaque semaine avec le docteur Marc-Antoine Bossart, c'est le vétérinaire d'Il suffit de demander, centre vétérinaire des sources à Genève. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Sophie.
Alors attention, elle n'est pas très sympathique, elle est un peu... On a un peu le frisson quand elle est dans notre appartement, notre maison, c'est la Nosferatu, c'est une araignée. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a un rapport, il peut y avoir un rapport avec nos animaux domestiques. Imaginez un chien, un chat qui a envie de s'amuser avec et qui a envie de la bouffer, hein, tout simplement. Mon chat, il bouffe tout ce qu'il trouve dans la maison, les petites bestioles. Si jamais elle se défend et qu'elle mord, qu'est-ce qui risque nos animaux domestiques, docteur ?
Je ne crois pas avoir de petits patients, patientes victimes de morsures de cette Zoropsis spinimana.
Oui, cette araignée, quoi.
que tu appelles araignée Nosferatu.
Voilà.
Donc, en me documentant, j'ai pu constater que cet animal est importé des régions chaudes d'Afrique du Nord. Et puis, petit à petit, il est venu en Europe. Et elle s'installe dans nos contrées, principalement en automne, parce que c'est un animal qui aime la chaleur. Et automne, elle s'introduit dans les maisons et appartements.
Absolument.
Elles sont spécifiques de par leur taille, parce qu'elles sont, comme tu disais, des steaks.
Elles sont costauds, hein.
Voilà. Avec pattes assez impressionnantes.
Ça fait un peu peur.
Et
d'ailleurs,
le tout pourrait faire dans les 4, 5, 6 centimètres. C'est assez impressionnant. Bon. Et elles ont cette capacité de morsure, c'est-à-dire de percer la peau de l'homme et de l'animal.
Alors, pour l'homme, c'est une piqûre comme une piqûre de guêpe au niveau de l'intensité de la douleur. Pour les animaux, qu'est-ce que ça fait ?
Pareil. Ouais. Et donc, dépend aussi, bien sûr, de la taille de l'animal. Plus l'animal est petit, plus il pourrait en souffrir. Comme tu disais, Sophie, c'est comparable à une piqûre de guêpe. Donc, il y a des animaux qui sont très sensibles, qui sont même allergiques. Mm-hmm. Et pour cela, il faut consulter.
Ouais.
Après, en dehors de la douleur momentanée, la plupart de nos animaux, chats et chiens, s'en sortent plutôt bien.
Ça va, donc pas d'inquiétude. Au-delà.
Un animal peut être, ou un homme peut être allergique, et là, il faut consulter, c'est sûr.
En tout cas, si vous en voyez une dans la maison, soit vous la chassez gentiment, vous la remettez dehors, soit vous l'écrasez, vous faites ce que vous voulez.
La particularité, c'est qu'elle ne tisse pas de toile.
Exact.
Voilà. Ouais.
Donc, on ne peut pas savoir.
Elle chasse la nuit d'autres insectes, donc elles sont quand même utiles certaine mesure.
Elle bouffe tout ce qu'elle trouve en insecte dans la maison.
Exactement.
Les moustiques et tout, il n'y a pas de souci.
Voilà. Mais la morsure peut être douloureuse, et puis dans certains cas, nécessiter une consultation. Oui,
la Nosferatu. Cette
araignée. Alors, Nosferatu, pour l'image, le dessin qu'elle a sur elle, qui ressemble au masque du vampire.
Oui, c'est ça. C'est l'araignée vampire, en quelque sorte.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine Bossart. Vous êtes notre vétérinaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, en podcast sur la page Il suffit de demander, radiolac.ca.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radiolac.
Sur le couple aujourd'hui, Carole, avec plus particulièrement une pièce de la maison ou de l'appartement qui doit attirer votre attention et à laquelle vous devez veiller.
Exactement, les couples hein, bah, qui sont tous différents forcément et qui traversent tous des étapes bah, un petit peu similaires de la vie à deux. Il y a des hauts, il y a des bas, tout ce qu'on dit hein, bien sûr. L'important c'est là
Communication.
Voilà, c'est bien, tu sais. Oui. Communication. Très souvent.
Mais c'est vrai,
voilà.
Ça, on le dit souvent quand on parle de couple dans cette émission.
Et la rupture survient régulièrement après un événement déclencheur ou alors en l'absence de communication. Et il y a apparemment, selon certains chercheurs, une pièce qui est assez significative concernant les couples, qui clairement est une zone de confort, une zone qui peut être un cocon, un espace de complicité, un espace où on peut communiquer.
Je sais, les toilettes.
Pas du tout. Pas du tout.
Ça peut être un espace de relaxation pour certaines personnes, d'isolement aussi.
Mais là,
parfois.
Je parle du séjour, de la salle à manger, du séjour, du
le
salon.
Le lieu de vie, quoi,
le
finalement.
Lieu de vie,
c'est
le
ça.
Salon. Et ouais. Il y a quelque chose qu'il faut particulièrement faire attention, il faut y veiller, c'est le syndrome du dead living room. C'est lorsque cette pièce qui, autrefois, se faisait cocon, espace de complicité, espace de communication, qui devient un lieu froid de cohabitation et qui parfois même peut abriter monsieur ou madame sur le canapé. Voilà, quand on commence à dire « Vas-y, tu sais quoi, je dors sur le canapé, etc. » Et ben, quand on le fait de temps en temps, c'est juste qu'on est dans une phase un petit peu basse de notre couple. Et ça peut arriver tout le monde, mais ce fameux salon peut être aussi témoin de la chute de votre couple, selon des chercheurs.
C'est-à-dire, si je comprends bien Carole, c'est passer de l'état de festif, mais en tous les cas de vie d'un salon en général, parce que c'est vrai que c'est l'endroit où on aime se retrouver, discuter, raconter sa journée, partager parfois des films, des choses qu'on a en commun, se poser pour lire, pour discuter, voilà, en un lieu finalement de passage ou de cohabitation. Hein,
on a un lieu de cohabitation, on a un lieu de non-communication. Et puis surtout quand on commence à beaucoup trop dormir dans le salon, j'ai envie de dire warning, faites attention les amis, c'est le fameux syndrome du dead living room.
Ok, donc faites gaffe à votre salon, mettez toujours de la joie de vivre sur le canapé, c'est ce qu'il faut
dire. C'est un petit peu ça.
Non mais c'est vrai.
Et mettez un plaid, parce que quand il y a trop de joie de vivre, les invités veulent plus s'asseoir.
Absolument.
Pardon. Donc... Excusez-moi.
Voilà, tu montreras ton canapé.
Pas du tout. Il est nickel. Nickel. Tu peux t'asseoir, mais sans problème.
Le Statuscope à retrouver tous les matins en podcast sur radiolac.ch.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. Miraculeux.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Bonjour Marc-Antoine Bossart.
Bonjour Sophie.
Alors Marc-Antoine, c'est le vétérinaire des suffit de demander, qu'on peut retrouver au centre vétérinaire des sources à Genève naturellement. Alors on a dit qu'on allait offrir à nos auditrices auditeurs une petite série sur les chiens tendance. Quand on parle chiens tendance, on parle de ces chiens qui, dont l'engouement est énorme, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, et puis surtout dans la rue.
Le chien qui est sur la plus haute marche du podium dans les tendances, c'est le berger australien.
Mais grave. Oh là là, alors mais c'est tellement mignon, surtout les bébés.
Succès, mignon, bon,
mais oui.
Il ne faut pas entendre mignon par petit, parce qu'il n'est pas spécialement petit.
Ah non, on n'a pas dit qu'il était petit.
si on veut faire, donc le premier, ce serait le berger australien, dont on a nommé. Ensuite, il y a le Golden Retriever.
Oui.
Et puis en trois, il y a le Staffy.
Oh, c'est trop chou, voilà, le Staffy.
Exactement. Actuellement. Hein,
ouais, actuellement.
Après, ça peut changer. Mais ça fait un petit moment que le berger australien est en tête.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce berger australien?
Finalement, il n'a pas grand-chose d'australien parce que ses origines sont basques.
Ah oui.
Voilà,
ah
bah, on apprend quelque chose.
Bah on fait du surf aussi au Pays Basque.
C'est ça. Et donc, de là, il est parti, effectivement, aux États-Unis, il est parti en Australie aussi, et puis il est revenu en France.
D'accord.
Et aujourd'hui, il a un grand succès parce que, voilà, c'est un chien... déjà physiquement qui est mignon, on peut le dire, qui a de la classe.
Il a toujours des yeux magnifiques. Voilà, c'est vrai qu'il est. C'est un chien à prendre en photo, c'est sûr.
Voilà, exactement. Il sort un peu des canons habituels hein, par rapport au Golden. Voilà, on va dire Golden, ok, une valeur sûre. Mais l'Australien, voilà, il a du succès. Et c'est un chien vif, sportif, intelligent.
Oui.
Et puis, il a besoin quand même d'une éducation, je ne veux pas dire ferme, mais quand même d'une éducation, parce que il a bien sûr l'instinct de berger, c'est-à-dire de rassembler. Mmh. Il n'aime pas beaucoup la solitude. Il aime beaucoup être en compagnie.
Donc il faut des maîtres qui puissent l'emmener au...
Il faut quand même avoir une certaine présence.
Ouais, oui. Ouais.
Si on revient à l'émission précédente, pourquoi pas,
tout
le
à fait.
De travail. Voilà,
tout
oui,
à fait,
oui. Alors, il va s'inscrire. En général, ce sont des chiens qui aiment, comme vient de le dire, beaucoup la compagnie, qui sont équilibrés. Et puis, c'est un chien environ entre 20 et 30 kilos. Hauteur entre 45 et 55 centimètres. Voilà, c'est un chien qui doit être brossé, peigné, parce qu'il a
entretenu, quoi.
Exactement.
Et surtout dressé, quoi.
Dressé. Pour qu'on puisse, alors malheureusement, il a des petites faiblesses, parce qu'il y a des chiens. Il y a des problèmes de hanches, dysplasie des hanches, dysplasie des coudes. Il peut avoir des problèmes d'yeux.
Ah, d'accord.
Il y a certains chiens qui naissent avec cécité et perte de vue.
Voilà. Ah, d'accord. Mm-hmm. Okay.
Et puis, il y a un petit détail, je ne sais pas si on a encore le temps d'en parler.
Oui, 5 secondes. Voilà. Dites-nous.
Il y a un déficit de certains chiens, de croisement de ces chiens-là, au niveau d'un gène, qui, en cas d'absence ou de modification, entraîne un manque de détoxication de certaines substances chimiques.
D'accord.
Et donc c'est bien de les tester, parce qu'il y a certains vermifuges, certaines choses comme ça qui ne sont pas recommandées à donner à ce type de chien.
Eh ben, merci beaucoup, la semaine prochaine on parlera du Golden Retriever, puisqu'on fait une série sur les chiens tendance. C'était Marc-Antoine Bossart, à retrouver en podcast sur radiolac.ch. à lundi prochain.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Réveil présente.
C'est notre Madeleine de Proust chaque matin, le flashback, un petit moment de nostalgie qui va nous ramener bien des années en arrière ce matin, Carole.
Ouais, une icône d'une autre époque, là, Fabien, un petit peu oubliée, hein, mais qui reste gravée dans nos souvenirs. On va parler de la cabine téléphonique.
Eh oui,
celle qui trônait autrefois au coin de chaque rue, offrant un refuge temporaire hein, pour des appels,
c'est
souvent urgents, parfois secrets aussi. Et dans une époque avant le tout connecté, elle était vraiment un pont vers le monde extérieur pour les voyageurs, en tout cas un outil de travail aussi pour les pros en déplacement, ou même un lieu de confidence pour les amoureux, ceux qui n'étaient pas ensemble,
ouais, hein,
ceux qui étaient peut-être séparés. Bref, inventé en 1880 quand même. Hein.
1880. Incroyable.
La cabine téléphonique a connu son âge d'or au milieu du XXe siècle, hein, dans les années 60-70. Elle était omniprésente. On la voyait partout, hein, notamment avec son style emblématique en verre et en métal, forcément. Difficile de ne pas s'en souvenir, hein, forcément, hein, si vous l'avez connue. Forcément, ça nous rappelle toujours de jolies choses. Ces cabines, elles étaient parfois témoins de scènes, d'émotions intenses. Hein. On pouvait y abriter des confessions, des disputes, des retrouvailles aussi. Et puis, qui ne se souvient pas de cette angoisse de voir les pièces de monnaie filer pendant une conversation interminable. Attention, ça va couper. Voilà, elles fonctionnaient à la fois comme une oasis de connexion et puis une source de stress, hein, pour celui qui n'avait plus de monnaie en poche. Parce
Absolument.
Que oui, et ça fonctionnait avec des pièces. Donc, il fallait avoir des pièces et il fallait recharger cette fameuse cabine téléphonique. Puis, avec l'arrivée forcément des téléphones portables, les cabines sont devenues obsolètes et au début des années 2000, elles ont été peu à peu démantelées. Hein. Aujourd'hui, alors, tu l'as dit tout à l'heure, hein, des fois, on les retrouve en pièces de collection, des œuvres d'art urbain, pourquoi pas. Certaines sont recyclées en bibliothèque de rue, oui. Et puis, d'autres peuvent aussi faire office de stations de recharge pour vélos électriques.
Oui, c'est vrai qu'elles ont plein d'utilisations.
Ouais.
Je crois que c'est à Londres, j'ai même vu il y a quelques années des cabines téléphoniques qui avaient été réutilisées pour faire des petits endroits pour travailler. C'est-à-dire qu'il y avait une table, un petit siège où tu pouvais avec ton ordinateur en pleine rue venir t'isoler,
c'est
travailler.
Génial.
Tu sais, des endroits un peu de coworking,
un petit abri, endroit où tu peux te poser et bosser, pourquoi pas. Bon, en même temps, il y a les cabines téléphoniques et la cabine téléphonique londonienne.
C'est ça.
Ça
magnifique.
C'est la grande classe. Ouais.
C'est toujours un souvenir incroyable. Donc, bon, ils ont dû en démanteler certaines, mais je pense que voilà, pour les traditions, le côté folklorique du Royaume-Uni,
c'est
ça reste incontournable.
Très joli.
Cette cabine téléphonique, vous l'avez forcément connue, vous avez forcément des souvenirs. 079 918 3000, cabine téléphonique qui servait d'abri aussi quand il pleuvait, quand
tu n'avais
pas de parapluie.
C'est vrai.
Bien pratique à l'époque.
Oui.
Allez-y, partagez avec nous vos souvenirs sur le WhatsApp de Radio Lac.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
China girl, I feel the Sophie Gaillard sur Radio Lac.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Il n'est jamais dans la lune, il a bien les pieds sur terre. C'est Eric Ashkar, bonjour.
Bonjour Sophie.
Eric Ashkar, alors justement, vous faites un jeudi, une planète. On parle de notre système solaire dans l'astronomie sur Radio Lac. Et on va parler de la lune.
Oui, effectivement, aujourd'hui.
On a marché sur la lune?
Aujourd'hui, j'ai la tête dans la lune.
Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette lune?
Alors, la lune, c'est le satellite de la Terre. Ouais. C'est l'astre de la nuit qui nourrit l'imaginaire collectif, qui fait que quand on regarde une belle pleine lune par une nuit de campagne, on se sent porté par une forme de magie. Eh bien, la Lune, c'est donc notre astre, comment dire, qui tourne autour de la Terre. Et je vais un petit peu la décrire parce qu'elle est très intéressante. Donc déjà, son diamètre, elle fait un quart, donc 25% le diamètre de la Terre. Donc un quart du diamètre de la Terre. Et si l'on veut positionner la Lune relativement à la Terre, imaginons que nous prenons la Terre qui fait 12 700 km de diamètre, eh bien on va prendre 30 fois notre planète Terre qu'on va mettre bord à bord, et cette distance de 30 diamètres terrestres va nous donner la distance de la Terre à la Lune. Donc elle est relativement loin de nous en rapport de taille par rapport à la taille de la Terre. Elle a une surface solide, comme la Terre et comme les planètes que nous avons décrites ces dernières semaines. Elle n'a pas d'océan, il n'y a pas d'eau liquide au sens de grande étendue d'eau. D'ailleurs, on le voit au télescope, on voit qu'elle a une surface principalement rocheuse. Elle a une atmosphère, mais qui est extrêmement ténue, donc elle est peu dense. Et la masse de l'atmosphère globale de la Lune ne fait que 10 tonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien.
Ah oui, quand même.
Oui, mais 10 tonnes réparties sur une grande surface ne représentent quasiment rien.
D'accord, ok, c'est vrai.
Un jour lunaire, donc la durée d'un jour, si on habite la Lune, dure 27,3 jours. Mais c'est aussi la durée de révolution de la Lune.
Un jour, c'est 27 heures.
Un jour, c'est 27 heures.
Ouais, vous avez... Oui.
Alors, un jour sur la Lune, c'est 27 jours terrestres.
Ah d'accord, ok, pardon.
Donc, quand on est sur la Lune, il faut attendre 27 jours terrestres pour faire une révolution lunaire, mais c'est aussi la même durée que la Lune met pour faire un tour de la Terre, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face à la Terre. C'est pour ça que quand on la regarde en premier quartier, en pleine Lune ou en dernier quartier, on verra toujours la même face orientée vers nous. Et sa présence, en fait, a permis de stabiliser l'axe de rotation de la Terre à 23 degrés. Parce que sans la présence de la Lune, cet axe stabilisé, en fait, ballotterait avec des angles qui varieraient très rapidement. Et ce qui empêcherait une stabilité de notre climat et qui peut-être aurait pu empêcher l'émergence de la vie. Donc peut-être que la Lune, par sa présence, par le fait qu'elle ait stabilisé l'axe de rotation de la Terre, a peut-être permis l'émergence de la vie à la surface de notre belle planète. Donc, la Lune, elle est très cratérisée, on peut le voir au télescope. Et il y a, si l'on veut s'attarder sur trois objets sur la Lune, on prend une carte de la Lune sur Internet, et avec une petite lunette, cela vaut le coup de regarder le cratère Copernic, Tycho et Platon.
Copernic, Tycho et Platon. Eh bien, c'est noté, on va tous faire ça. Merci.
Merci Sophie.
À la semaine prochaine. Voilà, c'était Eric Ashkara, retrouvé en podcast sur radiolac.ch et la chronique Astronomie.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Still standing.
réveil présente.
Et c'est à cet objet qui a accompagné nos premiers émois musicaux que nous intéressons aujourd'hui, le fameux, le mythique Walkman.
Bah oui, on n'en avait pas encore parlé dans ce flashback, c'est Walkman. Vrai. On a parlé du Discman, mais pas du Walkman dans les années 80, bien plus qu'un simple petit appareil, c'est tout un symbole, le Walkman. Il a été conçu par Sony.
Oui, c'est vrai,
tu
ça.
Tu t'en souviens ?
Absolument.
Eh oui, c'était en 1979, pour le coup, un petit lecteur de cassettes qui va révolutionner la façon dont on écoutait à l'époque la musique. Pour la première fois, la musique devient portable. Plus besoin d'un gros poste de radio ou d'une grosse chaîne hi-fi, on peut enfin se balader avec sa musique dans le métro, à vélo ou en courant dans le parc avec son fameux casque sur les oreilles. Le Walkman, c'est aussi l'éloge de l'individualisme musical,
c'est vrai.
On pouvait écouter tranquillement sa musique, finit de partager ses goûts avec tout le monde. Chacun peut désormais écouter sa cassette. J'allais dire sa playlist, oui et non, mais oui.
C'était une playlist à l'époque.
Une playlist qu'on faisait sur une petite cassette.
On faisait des compiles.
C'est ça, dans sa petite bulle. Le petit boîtier devient rapidement un accessoire de mode avec son design souvent coloré, souvent compact. On l'associe à une attitude très cool, un style un peu rebelle des ados et des jeunes adultes de l'époque. Sony n'a jamais imaginé l'impact qu'aurait eu ce petit appareil. Il est rapidement adopté partout dans le monde et ses ventes forcément explosent. C'est un véritable succès pour Sony et en seulement quelques années, le Walkman s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires, devenant un produit emblématique de son époque. Alors bien sûr, le Walkman finira par s'effacer par le Discman dont on a déjà parlé dans cette chronique.
C'était son équivalent, mais avec un CD,
bien sûr, puis par le MP3 et finalement par les smartphones. Mais c'est vrai qu'il laisse un héritage plutôt important, celui de la musique accessible partout, tout le temps. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens se souviennent de ce petit appareil. Il y en a même qui l'ont encore dans ses fonds de tiroir.
Ben ouais, moi je suis sûr de l'avoir encore chez moi, ce Walkman avec ce casque qui était très désagréable à porter à l'époque. Les premiers, je parle de ceux avec l'arceau, tu vois.
C'est vrai. Moi j'en avais un gris et noir, un petit peu comme toi.
C'est ça, exactement.
Et ma sœur qui est un peu plus vieille que moi, forcément, on a 9 ans d'écart, elle avait le Walkman, le jaune flashy.
Ah oui, donc
celui qui était un peu étanche.
C'est
celui
ça.
Que t'en
portais
partout.
Sport.
Exactement.
Mais oui.
Et ça, c'était la classe.
Ce Walkman qui nous a accompagnés partout. Moi, je me souviens de longs trajets pour partir en vacances dans la voiture à l'arrière, avec mon Walkman. Et puis, quand t'avais plus de piles, c'est comme ça qui ralentissait.
C'est
terrible.
C'est vrai, ça. C'était terrible.
Bah, oui.
Il fallait penser à la recharge de piles, bien sûr. Et puis, ça, c'est que sans compter la cassette qui déraillait à l'intérieur du Walkman.
Et qu'il fallait rembobiner.
Avec quoi ? Quel accessoire ?
Tu prenais un crayon.
Un crayon, bien sûr. Crayon à papier, bien évidemment. Bah oui, mais là, les jeunes ne font pas le rapport entre la cassette et le crayon à papier.
Ils doivent se demander de quoi on parle.
Mais oui, mais en fait, on mettait le crayon dans dans les petites roues.
Mécaniques, c'est ça, dans les bouts de la cassette.
Et on rembobinait.
Absolument.
Oh, c'était sympa. Hein.
Toute une époque, ça, le Walkman. Époque, vous avez des souvenirs, forcément. 079 91 8 3000 pour les partager. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. We'll be right back.
Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news.